passage du train. Attention.
On va où, maman? On va où?
Je sais pas, mon chéri. C'est toi qui décideras.
J'ai toujours préféré le train des marchandises.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à s'entasser dans le même wagon? Moi, croire que tout le monde aime la même chose.
C'est la mode.
Mais il y en a pour tous les goûts.
C'est quoi la mode?
La mode repose sur le mimétisme et le jeu. Et c'est un fait social, dit fait social total, car il implique profondément les individus et touche simultanément aux environnements artistiques, économiques, politiques, sociologiques, des groupes sociaux concernés, mais aussi de ceux qui sont à leur contact.
Ah, oh,
oh.
L'écologie, c'est une mode?
Non, c'est une nécessité.
Vous avez entendu, Georges?
J'ai entendu.
En voiture, s'il vous plaît, en voiture. Attention au départ.
C'est les allumeurs de réverbère.
Au sommaire ce mois-ci dans les allumeurs de réverbère, nous commencerons par la rubrique Lecture par Antoine Lair, qui nous plongera dans la vie des anciennes filatures de l'Essonne et de la Sarthe. Cette lecture sera suivie d'un point sur les actualités, présenté par Clément Mousset et Myriam Samour, suivie de la rubrique Histoire, rédigée ce mois-ci par Jean Touroud et lue par Bettina, qui nous aideront à retracer le parcours du mouvement écologiste des années 80 à aujourd'hui. Ensuite, musique, avec le titre Le Déserteur de Boris Vian. En deuxième partie d'émission, dans la rubrique L'Auto-citoyen, nous écouterons les propositions des habitants qui ont accepté de réfléchir avec nous à la façon d'améliorer leur ville, leur département, leur région ou leur pays, le tout en quelques minutes façon micro-trottoir. Ce L'Auto-citoyen sera suivi par la rubrique Élu un jour. Pour ce mois de février 2022, Mélanie Firmès, conseillère municipale, a accepté de répondre à une question personnelle: c'est quoi devenir politique? Et enfin, pour la rubrique Hymne international, nous partirons en Afrique du Sud et découvrirons l'histoire tumultueuse de ce pays. Mais avant cela, en soutien avec les peuples opprimés d'aujourd'hui, nous diffuserons un extrait de l'hymne national de l'Ukraine. Allez hop, c'est parti, bonne lumière à tous.
Наши воли, женьки, я краса на сон.
petite lecture.
Article 7. La journée de travail se compose de 13 heures. Les heures excédentes seront payées aux ouvriers dans la proportion de leur salaire et dans aucun cas ils ne pourront refuser un excédent de travail, quand les circonstances l'exigeront, sous peine de 2 francs d'amende. Article 8. Tout ouvrier en retard de 10 minutes sera mis à une amende de 25 centimes. S'il manque complètement, il paiera une amende de la valeur du temps d'absence. Article 9. Une fois entré, un ouvrier ne peut sortir sans une permission écrite, sous peine d'une amende de la valeur de sa journée. Article 11. L'ouvrier qui se présenterait ivre dans les ateliers sera conduit hors de la fabrique et paiera 3 francs d'amende. Il est expressément défendu d'aller dans le cabaret qui est en face de la grille. Article 16. Toute ouvrière qui laverait ses mains ou des effets quelconques avec le savon de la fabrique paiera 3 francs d'amende. Si elle était surprise en emportant, elle serait renvoyée et sa paie confisquée. Article 17. Il est défendu aux ouvriers de jouer, jurer, crier, chanter, se quereller ou se battre dans les ateliers, manger ou dormir pendant les heures de travail, d'aller en bateau, de se baigner et de courir dans la propriété, sous peine de 25 centimes à 1 franc d'amende suivant la gravité du cas. Article 22. Il est expressément défendu de sortir de l'atelier sous quelque prétexte que ce soit pendant les heures de travail, d'aller plus d'une fois par tiers au lieu et de s'y trouver plusieurs en même temps, sous peine de 25 centimes d'amende. Il y a dans chaque atelier une ouvrière chargée spécialement de remplacer celle qui désire sortir. En conséquence, avant d'arrêter son métier, l'ouvrière doit s'assurer si la remplaçante est libre et la mettre à sa place avant de quitter sous peine d'un franc d'amende. Article 24. Quiconque arrêtera son métier sans nécessité, s'habillera avant l'heure, paiera 25 centimes d'amende. Règlement d'une filature d'Essonne, 1828. Affiche Archives nationales. La partie est et nord-est de la Sarthe a connu du XVIIe au XIXe siècle une importante activité textile, particulièrement vouée au chanvre. Les derniers tisserands à domicile, encore nombreux vers 1880 dans les régions de Mamers, La Ferté-Bernard et Saint-Calais, ont totalement disparu peu après la guerre de 14-18. D'abord parce que la mécanisation de la filature et du tissage avait rendu leur travail trop lent et trop peu productif. Ensuite parce que l'évolution des goûts condamnait la toile, c'est-à-dire le tissu de chanvre ou d'un mélange de chanvre et de coton. Les témoins n'ont pu oublier le caractère pénible du travail de tisserand. D'une part, il est accompli dans une cave, le seul endroit du modeste logement qu'on puisse encombrer du gros outil de production, et le seul local dont la température soit régulière et le degré d'humidité satisfaisant pour travailler le textile. D'autre part, en raison de la modicité des salaires versés selon le métrage, les journées sont chargées, 12 à 14 heures, et mordent sur les nuits. De sérieuses menaces pèsent sur la santé des tisserands. Cave humide et mal chauffée l'hiver, poussière de chanvre et de coton, produits de teinture de mauvaise qualité, éclairage insuffisant, surmenage. Avec la maladie, un fragile équilibre se trouve rompu. Malgré une éventuelle indemnité de la société de secours mutuel, l'ouvrier en arrêt de travail rejoint temporairement le groupe des indigents. Le souvenir pressant de cette insécurité faisait dire à une ancienne tisseuse de la Ferté-Bernard « Où ils ont été les plus heureux, mes parents, c'est quand ils ont été à l'usine. » Vers 1900-1910, l'entreprise de tissage mécanique Béalet versait 3 francs pour des journées de 10 heures environ. Or, le tisserand à domicile, en dépit d'un labeur harassant, ne peut espérer dépasser 50 à 55 sous, puisqu'il est payé à la tâche selon la longueur et le fini de la pièce qu'il rapporte au fabricant. Pourtant, si l'entrée à l'usine apporte à certains le sentiment d'échapper à la misère, la mémoire collective nous transmet un écho différent. Rien ne valait la liberté du tisserand qui, maître de son temps, ignorait la servitude d'un horaire. Une fertoise qui a tissé dans sa cave jusque vers 1930 affirme « C'était le rêve, on était libre, on était bien décidé, on en faisait une bonne journée. Si on se trouvait un jour moins en train ou si on avait du travail à la maison, eh ben on était tranquille. » Le dimanche n'était pas forcément jour de repos, du moins le matin. L'après-midi, parfois, la famille ramasse de l'herbe pour les lapins. Mais les tisserands ont l'habitude de faire le petit lundi. Le matin, ils se rendent au marché et l'après-midi à la pêche. Cette liberté, relative, permet aussi la rentrée de modestes revenus complémentaires. Quelques tisserands exercent une sorte de métier d'appoint, pompiers, fossoyeurs. Beaucoup savent rendre de petits services, entretiennent des jardins, réparent sabots et galoches, rentrent et fendent le bois des particuliers. Mais l'opération la plus fructueuse reste la moisson en bosse, qui provoque chaque été la ruée de nombreux Sartois vers l'Eure-et-Loir. La moisson apportait une somme appréciable, qui pouvait tripler le salaire d'un mois et servait à payer le loyer, le pain des précédentes semaines, le bois pour l'hiver, les pommes à cidre. Elle permettait aussi de saler du beurre et plus rarement un peu de porc. Hubert Néant, autobiographie d'ouvrier sartois, colloque sur la mémoire ouvrière, Éco musée du Creusot, 1977. Do.
allumeur de réverbères.
Actualité !
Convoi de la liberté. Le 14 février dernier, le gouvernement canadien a annoncé des plans draconiens visant à geler les comptes bancaires des manifestants associés au convoi de la liberté. Le ministre canadien de la Justice, David Lametti, a même laissé entendre que ces nouveaux pouvoirs étendus seraient utilisés pour cibler ceux qui font partie du mouvement pro-Trump, mouvement accusé par le gouvernement de donner des centaines de milliers de dollars au convoi de la liberté. Convoi de la liberté 2. Ce même jour, 14 février, les participants français du convoi de la liberté, traqués par la police belge et non rejoints par des manifestants d'autres nationalités, n'ont pas pu terminer leur parcours dans Bruxelles comme ils l'avaient pensé. Partis pour la plupart depuis une semaine, ils voulaient manifester leur refus des passes sanitaires et vaccinaux qui constituent pour eux une grosse atteinte à la liberté. Corruption. Le Crédit Suisse, numéro 2 du secteur bancaire suisse, dans la tourmente. Ce groupe bancaire historique, au siège situé à Zurich, est accusé d'héberger des fonds d'origine criminelle, fonds liés à des dictateurs, à la corruption, au crime organisé ou encore à des espions. Tout a démarré il y a un peu plus d'un an, quand une quantité importante d'informations internes a fuité anonymement et a été remise au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung. Au total, ce sont plus de 100 milliards de francs suisses ou 95 milliards d'euros qui sont concernés. Anticorruption. L'association de lutte contre la corruption, Anticor, a décerné fin janvier, comme chaque année, ses prix éthiques et ses casseroles. Par exemple, l'Observatoire des multinationales a reçu un prix éthique pour son rapport sur la présidence de l'Union européenne assurée par la France depuis le 1er janvier, rapport qui révèle l'alignement du gouvernement français sur les intérêts des grandes entreprises. Prix d'éthique également pour un policier lanceur d'alerte, suspendu depuis, pour un ancien inspecteur des impôts qui a sorti un livre « La corruption, comment ça marche ?» et également pour Julian Assange. Côté casserole, distinction pour des élus ou hauts fonctionnaires partis s'enrichir dans le secteur privé, comme Natacha Valla, directrice adjointe de la Banque Centrale Européenne, qui a rejoint LVMH en juin 2020, ou bien pour Mathias Vichera, haut fonctionnaire devenu directeur de Sciences Po. Insolite. L'île de Peel, petit morceau de terre de 15 hectares, situé au large de la côte nord-ouest de l'Angleterre, cherche un roi ou une reine à plein temps. Cette île abrite un château en ruine et un pub vieux de 3000 ans, le Ship Inn, et un camping. Déjà 190 candidatures sont arrivées du monde entier. Lors de la cérémonie d'intronisation, le roi ou la reine prête serment. Il ou elle doit jurer d'être un bon fumeur, un bon buveur et de donner à toute personne trouvée morte sur les sables un refuge gratuit dans le pub. L'île connaît une activité intense l'été, alors que l'hiver, elle est peuplée par seulement 2 personnes.
Anne Lauvergeon a encore fait des siennes. L'ancienne conseillère spéciale du président Mitterrand, qui fut ensuite présidente d'Areva jusqu'à son implication dans le scandale Uramine avec son conjoint en 2011, s'est lancée une nouvelle fois dans le trading énergétique et n'a pas respecté ses engagements. En effet, dans le cadre de l'ouverture des marchés publics du gaz et de l'électricité, la société Ipango, présidée par Anne Lauvergeon, s'engageait à maintenir ses tarifs pour le gaz à prix fixe. Notre experte se serait-elle encore faite avoir ? En tout cas, la société de la millionnaire a malmené la vie d'au moins 1500 locataires des logements HLM de la régie immobilière de la ville de Paris, qui ont vu leur robinet de gaz purement et simplement coupé. C'est ensuite qu'ils ont appris qu'il leur faudrait ajouter 40 euros par mois à leur facture pour maintenir leur approvisionnement avec une autre société. Alors que le nouveau film « Enquête sur un scandale d'État » de De Peretti est sorti en salle le 16 février dernier, François Thierry, ex-patron des Stups de France, a lui été condamné le 18 février pour procédure abusive contre le journaliste co-auteur du livre qui a inspiré le film. François Thierry, c'est le vrai nom du personnage nommé Jacques Billard, le patron des stupes, dans le film de De Peretti, interprété par Vincent Lindon. Le nom de l'infiltré, Hubert Antoine, est en réalité Hubert Avoine, décédé en 2018. Et le nom du journaliste qui a inspiré le personnage de Stéphane Villeneur se nomme en réalité Emmanuel Fonsten, journaliste de Libération dans la vraie vie, contacté en mai 2016 par Hubert Avoine, qui s'était alors servi d'une fausse identité que lui avait fournie l'État français pour ses missions secrètes. Quelle est la réalité des faits ? En 2017, grâce à leur enquête, Emmanuel Fonsten et Hubert Avoine ont bel et bien réussi à faire la lumière sur le système déviant de la lutte antidrogue de la France, qu'ils accusent même de participer davantage à la diffusion des produits qu'à l'arrestation des trafiquants, les couloirs de la brigade des stupes étant même soupçonnés d'être entièrement corrompus ou manipulés. Les locataires successifs du ministère de l'Intérieur, qui ont tous soutenu François Thierry depuis son entrée en poste en 2006 jusqu'au retrait de son habilitation d'enquête judiciaire en octobre 2017 par la procureure générale de Paris, continuent à le soutenir. Pourtant, cet ancien directeur de la lutte antidrogue, qui avait déposé plainte pour diffamation contre Emmanuel Fonsten en 2017 à la sortie du livre, l'a retiré en janvier dernier. Retrait trop tardif selon la Cour, qui l'a quand même condamné à verser des indemnités aux journalistes. Retrouvez toutes les références sur notre site internet.
Maman, qu'est-ce qu'on fait là ?
Je sais pas, mon chéri. Et puis, ils t'ont pas demandé ton avis.
Raconte-moi une histoire.
Laquelle ?
L'histoire de quelqu'un qui s'est rêvé ?
Oh, tu veux du rêve ? Tu veux du rêve, mon petit bonhomme ? Mais va peut-être falloir penser à les réaliser.
Quand le singe montre la lune, l'idiot regarde en bas.
La petite histoire !
Et le sage lui fait un doigt.
De quelqu'un qui s'est rêvé.
Viens là, hein.
Les allumeurs de réverbères.
Hey, for you guys, take one moment to look at the overhead windows on Discovery.
Okay, Ronnie.
En 1974, lors de la campagne présidentielle, un homme, René Dumont, ingénieur agronome de formation avec son éternel pull rouge, déjà nous annonçait la fin du monde au milieu du 21e siècle. Si nous continuons le même modèle productiviste, agricole et industrielle. Il était apparu à la télévision avec un verre d'eau et avec des mots simples qui auraient dû être compris par tous et toutes. Il avait dénoncé le modèle agricole responsable de la pollution en nous expliquant que si ce modèle ne changeait pas, ainsi que notre politique industrielle, ce verre d'eau deviendrait un bien rare. Malheureusement, il disait vrai. Pourquoi avons-nous collectivement refusé d'écouter son discours, maintes fois répété, que ce soit lorsqu'il défendait les énergies renouvelables contre les énergies fossiles ou nucléaires, lorsqu'il défendait un autre monde agricole défendant les productions locales, la paysannerie partout dans le monde, dénonçant les ravages du productivisme agricole basé sur la chimie et les produits phytosanitaires. Il avait compris que cette civilisation allait dans le mur et il parlait d'une autre croissance respectueuse de notre planète. Un de ses slogans préférés était « La voiture, ça pue, ça tue et ça rend con ». Il défendait le train contre la voiture et l'avion, tout un programme. Il dénonçait aussi les ravages du libéralisme, notamment dans son livre « L'Afrique est mal partie », où il décrivait méthodiquement les ravages de la décolonisation et des politiques post-colonialistes des pays occidentaux. Il a été le premier à dénoncer et à expliquer les conséquences de ce qui ne s'appelait pas encore la mondialisation. Explosion démographique, productivisme, gaspillage, pollution, creusement des inégalités sociales entre le Nord et le Sud. Il a ouvert la porte à toute une génération d'écologistes. Brice Lalonde, qui fut son directeur de campagne pendant cette présidentielle en 1974, Yves Cochet, Dominique Voynet, Nicolas Hulot et j'en oublie plein d'autres. 1974 aurait dû être le début de cette prise de conscience importante, surtout après le premier choc pétrolier de 73. mais cela ne fut pas le cas car les politiques de tous bords ont failli, reléguant l'écologie au rang de gadget pour bobo. En France, le premier ministère de l'Environnement date de 1971. Mais pour quel résultat? Souvent, son seul rôle a été très, très minime, voire inexistant, et cela n'a jamais été une priorité, même encore aujourd'hui. Greta Thunberg a repris le flambeau avec toute une jeunesse inquiète par son avenir et en droit de demander des comptes. Pourquoi avons-nous failli à ce point? L'urgence climatique avec ses effets visibles partout. Inondations, sécheresses, incendies, fonte des pôles, réfugiés climatiques font que plus personne ne peut nier l'ampleur des problèmes. Soutenir Greta Thunberg, c'est aussi soutenir tout ce mouvement écologiste dont elle est la digne héritière. Mais il y a urgence. On sait que la science ne pourra rien pour nous et que seul un autre modèle de croissance pourra nous sauver, si cela est encore possible et si nous avons le temps. René Dumont était aussi un pacifiste, antimilitariste. Le 19 juin 2001, lors de son enterrement, il a souhaité que l'on joue le déserteur de Boris Vian.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Vous venez d'entendre « Le déserteur », une chanson écrite par Boris Vian en février 1954 lors de la guerre d'Indochine, composée par Harold Berg. À l'origine, il s'agit d'un poème dont la première interprétation a été diffusée en mai 1954, interprétée par Mouloudji, chanteur, auteur-compositeur-interprète, peintre et acteur français, qui accepte de l'interpréter après avoir demandé à Boris Vian d'en écrire une version pacifiste. Ainsi, Monsieur le Président est remplacé par Messieurs qu'on nomme grands, Ma décision est prise, je m'en vais déserter et remplacé par Les guerres sont des bêtises, le monde en a assez. Et enfin, Mouloudji, n'imaginant pas un pacifiste ayant un fusil, fait remplacer la chute initiale qui disait « Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je tiendrai une arme et que je sais tirer » par « Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'arme et qu'ils pourront tirer ». Mouloudji ajoute la chanson à son programme de concert le 7 mai 1954, jour de la défaite décisive de la guerre d'Indochine. Et c'est le 12 février 1955 que Boris Vian l'interprète pour la première fois en public.
Les allumeurs de réverbères.
Le loto citoyen.
Félicitations!
Bravo!
Félicitations!
Le loto citoyen!
Savez-vous qu'un loto a été organisé dans votre ville et que vous avez gagné? Le loto citoyen est donc la possibilité de mettre en place le projet que vous voulez à l'échelle de votre ville pour tous. Quel est ce projet?
Le projet que vous voulez?
Le projet que vous voulez?
Le projet que vous souhaitez pour que la vie aille mieux?
Moi, ça commence déjà par la circulation qui est problématique. Une ville qui n'est pas adaptée pour les gens qui veulent faire du vélo. Et ça, malgré toutes les bonnes volontés, on n'y arrivera pas. Parce que vous avez vu la configuration de la ville. Aménager des pistes cyclables et tout ça, c'est... Alors quand on me parle d'espace partagé, piétons, vélo et voitures, j'ai du mal à y croire. Mais ce serait quand même pas mal si on y arrivait.
Que tous les magasins du centre-ville ouvrent, réouvrent ceux qui sont fermés. Comment on fait ça? De la dynamique, enfin, redonner de la dynamisme dans le centre-ville. À écouter certains clients, oui, il y a des fermetures qui sont en haut depuis un petit bout de temps. Comment on fait? Les remettre en état avant, éventuellement. Voilà ce que je peux dire pour le centre-ville.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi.
Mais j'aime pas, c'est les jugements de dire. On est commandé partout. On n'a plus le droit de rien faire en fait. On dirait qu'on est en prison en fait. La liberté, totalement, ouais. Mais c'est chiant parce que. Même que les jeunes qui fument le shit ou n'importe quoi. Mais c'est. On interdit tout. Mais qu'on laisse tranquille les jeunes, les gendarmes, tu sais, ils sont gentils les gendarmes, je respecte, les pompiers je respecte. Mais ils interdisent de la fume, mais s'ils interdisent la fume, les jeunes, après ils luttent contre les autres, ils se tapent dedans, ils se tuent, alors attends, il faut rater les corrigés. La loi elle est mal faite en fait, on a une loi de France de merde, et voilà, excusez-moi, mais voilà.
De rendre Mayenne la première ville écologique de France, à 100% écologique. Alors c'est un grand projet, parce que qu'est-ce que ça veut dire écologique aujourd'hui? Mais déjà piétonnière, en installant vraiment un réseau pour permettre aux gens d'accéder en ville sans avoir des gros problèmes de parking, d'organiser vraiment une ville écologique. De la végétalisation, l'accessibilité à tout, une énergie renouvelable. Alors évidemment, à penser, hein, vous me demandez ça en quelques secondes, c'est pas évident, c'est pas mon métier non plus. Mais... Oui, de passer à une autre énergie, le bois, mais à voir comment et voilà, pour pas déforester non plus. Enfin, de coupler certaines énergies certainement. Hein, et puis au niveau de la citoyenneté, des lieux de rencontre dans la ville. À la place du jet d'eau, des bancs, de la verdure, hein, ça peut être des fleurs, des arbres, voilà, un lieu de rencontre où on peut se parler, manger une glace, voilà, autour de. Sur une place.
It's a human sign when things go wrong.
Un endroit où les gens peuvent se retrouver pour décompresser, danser, par exemple, ça pourrait être déjà sympa. Donc ça ramène un peu de chaleur humaine. Une boîte de nuit, un endroit ouais, où c'est à fois convivial et dansant, quoi. Et ça finit tardivement parce qu'au final, on n'a plus rien. Donc, c'est un endroit où les gens peuvent se rencontrer, faire de nouvelles connaissances, décompresser. Enfin, voilà, et ça fait vivre aussi les commerces sur place, quoi.
De Réverbère et laissez-nous vos coordonnées. Nous fixerons un rendez-vous téléphonique, vous nous parlerez de votre projet, nous donnerez le titre de votre morceau préféré du moment et nous nous occuperons du reste. Tu sais quoi ? Nous, ce qui nous fait plaisir, c'est de faire plaisir.
Les allumeurs de Réverbère.
La rubrique élue un jour.
Bonjour, je suis Delphine, je vous présente aujourd'hui Solène Ménager.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Jean-Pierre Lescornette.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Mélanie.
Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Adrien Mottet.
Donc je m'appelle Adrien Mottet.
Bonjour à tous, donc Solène Ménager.
Jean-Pierre Lescornette.
Bonjour, je m'appelle Mélanie Firmès.
J'aimerais savoir, c'est quoi s'engager en politique ?
Alors l'engagement, ça a été une grande discussion au départ avec mon conjoint. Donc j'avais, quand je me suis engagée, j'avais qu'un enfant. Et donc on en avait discuté parce que je savais que c'était du temps à y consacrer. Et en général, quand je me lance, je fais pas les choses à moitié, j'y vais ou j'y vais pas du tout. Donc voilà, on en avait discuté. Je pense que c'est une organisation. À un moment, j'ai pu être présente pour mon conjoint quand il en avait besoin au niveau professionnel. Et là, il m'a rendu, l'ascenseur. Donc je pense que c'est une organisation. Il y a des réunions le soir. Dans la journée, au niveau du travail, c'est pareil. Je pouvais adapter, mes horaires par rapport aux réunions. Et puis après, mes enfants, ils ont toujours compris aussi des fois les absences prolongées que je pouvais avoir le soir quand il y avait des choses à faire. Et je me dis que c'était une belle valeur humaine en fait à leur inculquer. C'est-à-dire que quand on a envie de faire quelque chose, et ben on se donne les moyens. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose ou qu'on veut exprimer son opinion, et ben on y va, on se donne les moyens d'y arriver. Et effectivement, il y a des contraintes, mais il y a des choses hyper agréables en retour. Et voilà. Pour moi, je me suis engagée au niveau politique. Ça a commencé par le mandat électoral que j'ai eu sur ma commune parce que je voulais agir en fait pour le bien-être de ma commune. Je me posais beaucoup de questions sur le fonctionnement justement d'un conseil municipal, savoir pourquoi, le fonctionnement on va dire des impôts, fonctionnement on va dire global d'une commune. Je me disais que le meilleur moyen de comprendre c'était aussi de s'engager. Ça a été une rencontre avec le maire qui était en place et puis ça s'est plutôt bien passé au niveau du contact. Il m'a proposé un poste d'adjointe et voilà, ça restait à l'échelle de la commune au niveau de l'engagement. Et puis ça m'a plu, les actions qu'on a pu mettre en place, le réseau que j'ai développé. Et c'est ce qui fait que j'ai voulu étendre un petit peu ce champ de vision et de me dire qu'il n'y avait pas que la commune et que la commune elle était aussi comprise sur un territoire et une communauté de communes. Donc voilà, d'où mon engagement, on va dire, un peu plus élargi par rapport à une candidature pour les départementales avec Guillaume Carré.
c'est les allumeurs de réverbères.
Dans la rubrique hymne international ce mois-ci, nous allons parler de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est nommée le pays arc-en-ciel. En effet, sa population se répartit entre noirs 80,2%, colored 8,8%, blancs 8,4% qui sont à la tête de la plupart des infrastructures d'ampleur du pays et asiatiques 2,5%. En 2017, on comptait 56,72 millions d'habitants. Pour parler de l'histoire de l'Afrique du Sud, il est nécessaire de parler de la colonisation. Des traces retrouvées nous disent que des explorateurs chinois, arabes ou indiens y seraient passés en visite avant le XVIe siècle. Concernant les Européens, c'est tout à fait différent. Vers 1657, les salariés engagés par les entreprises de traite humaine européennes y sont installés. Puis, vers 1691, quand la pointe de l'Afrique du Sud, jusqu'ici appelée par les colons le Cap de Bonne-Espérance, devient officiellement la colonie du Cap, les familles arrivent. Des individus, appelés encore aujourd'hui les Boers, de l'Afrikaans Boer, signifiant « paysan », sont les premières populations blanches d'Afrique du Sud. Ce sont des familles de fermiers majoritairement originaires de l'actuel Pays-Bas, mais aussi d'Allemagne et de France. Les premiers contacts entre les familles de fermiers blancs boers et les bantous, la population locale, sont relatés vers 1770 et semblent très conflictuels. Alors territoire néerlandais, l'Afrique du Sud entre sous l'emprise de l'Empire britannique en 1806. Au fur et à mesure que sont découvertes les ressources naturelles de diamants, d'or et de charbon, les populations locales sont dénigrées et les guerres se déclenchent, provoquant même l'opposition des descendants des fermiers blancs contre l'administration britannique. Pour tenter de contrer les tensions, les Britanniques développent des camps de concentration. Durant la Seconde Guerre des Boers, de 1899 à 1902, 49 camps sont développés par l'armée impériale britannique afin d'y interner les populations civiles boères et indigènes. Sur près de 145 000 femmes et enfants boères internés, près de 28 000 y moururent, victimes de conditions de vie effroyables. Quelques années plus tard, une entente est trouvée entre les boères et l'armée impériale britannique, développant en 1912 le Native Land Act. Ce traité divise le territoire sud-africain entre les terres indigènes, 7% puis 13% du territoire, et les terres destinées aux blancs et aux administrations publiques, 87% du territoire.
Le massacre de Charpeville
par Wikipédia. Le 18 décembre 1960, Robert Sobukwe, président du Congrès panafricain d'Azani, PAC, appelle à des manifestations non violentes dans tout le pays, le 21 mars, pour contester les passeports intérieurs, demander leur abrogation et l'augmentation de la rémunération de base de la journée de travail. Les manifestants sont appelés à se réunir devant les postes de police et à se porter volontaires à l'arrestation pour non-port du pass. Le but est que tous les postes de police soient rapidement débordés et incapables de procéder aux arrestations et aux emprisonnements. Il s'agit aussi pour le PAC de s'imposer face à son rival, le Congrès africain. L'ANC, en entente avec les colons britanniques. Le 21 mars 1960, les militants du PAC agirent dans tout le pays. Le chef de police avait pour ordre de disperser la foule, celle-ci formant par endroits une masse compacte composée pour l'essentiel de femmes, d'enfants, de personnes âgées, d'ouvriers et d'employés. Pourtant, une ligne de policiers fut placée face à l'entrée du poste, les armes chargées et la foule mise en joue. Certains défendent l'emportement ou l'accident. En tout cas, on révéla 69 morts et parmi les 178 blessés, un nombre très impressionnant de blessures par balle dans le dos, à la tête ou à la poitrine. Après plus de 30 ans de massacres et de négociations politiques, et notamment grâce aux actions de Nelson Mandela, l'apartheid est aboli en 1991. Ce qui n'empêcha pas de nombreuses injustices de perdurer.
Depuis la fin de l'apartheid, l'égalité des revenus entre les différents groupes de population n'a pas progressé et l'Afrique du Sud connaît un taux d'inégalité parmi les plus élevés du monde. C'est toutefois une puissance de référence pour le continent africain, étant la deuxième puissance économique d'Afrique derrière le Nigeria. L'hymne national que nous allons écouter maintenant est la version chantée en 1993 lors du décès de Nelson Mandela. Cet hymne, adopté en 1997, est une combinaison de Die Stern van Suid-Afrika, la voix de l'Afrique du Sud, avec Nkosi Sikelel i Afrika, un chant liturgique populaire africain adopté par les mouvements anti-apartheid. L'ensemble formule un chant contre la guerre et une ode à la liberté où s'alternent les cinq langues les plus parlées d'Afrique du Sud, le Zoulou, le Sesotho, l'Afrikaans, l'anglais et le Xhosa.
Nkosi Sikelele Africa, God bless Africa.
Mabube jalo, mabube
Et voilà, les allumeurs de réverbères, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles rubriques, de nouveaux sujets et encore plus de rédacteurs. D'ici là, si vous souhaitez en savoir davantage sur l'équipe, connaître les détails de l'émission, participer au loto citoyen, rendez-vous sur notre site internet allumeurs-de-reverbères.fr et sur les réseaux sociaux @allumeurs-de-reverbères. Cette émission a été réalisée par Antoine Lair, Clément Mousset, Delphine Ramon, Myriam Samou, avec la participation de Jean Touroud et de Bettina. Habillage musical par Happy London Call. Nous sommes les allumeurs de réverbères et nous vous souhaitons force et courage, amour, paix et prospérité, solidarité nationale et internationale, des rêves, de la résistance et des constructions extraordinaires à taille humaine. Rendez-vous le mois prochain et d'ici là, bonne lumière à tous.
Plaisir.
Au revoir, au revoir.
C'était un plaisir de vous rencontrer.
Non, mais vous allez pas en faire des tonnes non plus, on soit bien.
Georges, vous êtes un sacré grognon.
Wow, 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 partez pas si vite. Vous oubliez quelque chose, il me semble.
Mais de quoi il parle?
Ah non, 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 je vois pas, ça c'était marqué, servez-vous.
Mais de quoi vous parlez?
Et vos petits amis, là? Allez!
Cet instant de relaxation vous était proposé par
les allumeurs de réverbères.